Merci d'être présent ici. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cet événement et d'avoir su faire un temps météo aussi magnifique, exceptionnel. Là, je dois dire, je ne sais pas quels appuis les organisateurs ont avec Météo France, mais c'est assez efficace. Alors, je suis désolée pour les petits problèmes techniques. L'affichage devrait être un peu plus sympa que ça, mais il y a des fonctions qui ont mystérieusement disparu du logiciel qu'on utilise ici. Donc, je vais vous parler du lien entre biodiversité et santé. Lorsqu'on parle de biodiversité et santé, c'est vrai que généralement, on va parler et penser immédiatement à des questions comme la santé par les plantes, se nourrir de façon naturelle, etc., etc. Je ne vais pas du tout aborder ces sujets-là. Donc, je vais aborder les choses de façon assez différente pour montrer comment la santé humaine est vraiment intriquée avec la santé qui concerne la biodiversité, voir comment les choses, en fait, s'entremêlent. Si on réfléchit au rapport qu'il y a entre biodiversité et santé, si on réfléchit juste, désolé pour le bruit, au rapport entre l'homme et l'animal et ses conséquences en matière de santé, vous allez voir qu'il y a des conséquences extrêmement diverses, extrêmement multiples, et il s'agit de voir un petit peu comment ça se passe de façon un petit peu schématique. Les animaux peuvent être déjà, à la base, source de maladies. L'un des exemples les plus frappants sont les chauves-souris. Les chauves-souris paraissent d'innocents volatiles, comme on aurait dit à la Renaissance, puisqu'on les classait alors parmi les oiseaux. Mais il faut savoir que la chauve-souris est un petit laboratoire de virologie ambulant. Le nombre de virus extrêmement pathogènes pour l'homme qui se trouvent dans la chauve-souris, les chauves-souris, est extrêmement impressionnant. On va retrouver tous les virus les plus dangereux pour l'homme, comme la rage. Je vous rappelle quand même que la rage est la maladie infectieuse la plus mortelle qui existe, puisque au moins 97% des personnes atteintes de la rage meurent de la rage. Donc, c'est en fait la seule maladie infectieuse qui tue à coup sûr la personne qui est infectée. À moins, bien sûr, de disposer d'un vaccin. Ça, c'est une autre question. Mais de façon naturelle, quelqu'un d'infecté par la rage meurt de la rage. Ebola, c'est pas mal non plus. Le taux de mortalité en fonction des différentes infections qu'il y a eu, les épidémies différentes qu'il y a eu à cause d'Ebola, varie. Très souvent, on a des taux de mortalité supérieurs à 70%. Donc, c'est quelque chose d'absolument considérable. Il faut savoir que la chauve-souris est un réservoir de maladies, mais ne souffre pas de ces maladies. On a repéré par exemple une chauve-souris en Afrique qui était à la fois porteuse de la rage et d'Ebola et qui a vécu 18 mois après sa première interception en parfaite santé. En fait, c'était une femelle en plus qui était prégnante. Donc, elle a vécu tout à fait normalement alors qu'elle était porteuse de deux virus qui, pour l'être humain, sont hautement pathogènes. Alors, comment ça passe? Ces virus échappent de ce petit laboratoire volant pour infecter d'autres espèces, comme la rage. Bah, tout simplement, dans le cas d'Ebola, on connaît extrêmement bien le phénomène. Il s'agit de chauves-souris frugivores qui vont ramasser des fruits, les mâchouiller, en fait, pas les manger complètement, les laisser tomber de l'arbre où elles ont récupéré ce fruit. Et le fruit qui a été contaminé va être mangé par des espèces herbivores, comme des gorilles, des chimpanzés, certaines antilopes. Et ces animaux vont être contaminés par le fruit qu'ils auront ramassé sur le sol. Après, des êtres humains vont venir chasser ces chimpanzés, ces gorilles, ces antilopes et se faire contaminer à leur tour par la consommation d'animaux, de gibier, contaminés par le virus Ebola. Mais la chauve-souris elle-même est tout à fait en bonne santé, bien que porteuse d'un virus absolument redoutable. En France, on connaît quelques cas de rage chez le chat à cause des chauves-souris françaises. C'est-à-dire, le chat a essayé d'attraper une chauve-souris, s'est fait contaminer par la salive de la chauve-souris, et en fait a attrapé ce virus, et le chat en fait est détecté positif à la rage. Il faut savoir que le taux de mortalité chez les renards, par exemple, dû à la rage, est à peu près 100% aussi.
Mais, excusez-moi, avant la chauve-souris...
Pardon ?
Qui avait cette maladie avant la chauve-souris ?
Avant la chauve-souris ? C'est la rage, par exemple, les virus dont je parle existent dans les chauves-souris comme réservoir. C'est-à-dire le virus vit sa petite vie de virus dans les communautés de chauves-souris, passe d'une chauve-souris à une autre. Donc on sait que certaines espèces, pour le virus Ebola, ou le virus de la rage, présentent une sérologie positive de 70%. C'est-à-dire 70% des individus ont croisé dans leur vie ces virus, encore une fois, sans en mourir pour autant. C'est dans le règne animal, il y a beaucoup d'espèces qui jouent le rôle de réservoir. Chez les rongeurs, ça ne va pas être tellement des virus, mais plutôt des bactéries, et notamment, par exemple, la peste noire, le réservoir naturel de la peste, ce sont des rongeurs. Et qui vont après, encore une fois, cette idée de réservoir est une bonne image, parce que de temps en temps, les réservoirs se renversent, en fait, débordent, et c'est ce qui se passe avec ces épidémies qui quittent ces espèces réservoirs pour toucher d'autres espèces. Alors, dans la biodiversité, il y a aussi une autre forme qui pose énormément de problèmes pour l'être humain, d'ailleurs, et pas que pour l'être humain, c'est les animaux qui sont vecteurs de maladies. Cette fois, ils ne sont pas simplement que réservoirs comme la chauve-souris, mais jouent un rôle actif dans la diffusion de la maladie. Le moustique va piquer une personne contaminée, puis va piquer une personne qui n'était pas contaminée, et ce faisant, comme une seringue usagée entre deux personnes qui sont séropositives, transmettent en fait la maladie d'une personne à une autre personne. Il faut savoir que là aussi, les moustiques ne sont pas malades, ni du paludisme, ni du chikungunya, etc. Ils sont simplement porteurs. Dans le cas du paludisme, par exemple, j'en reviendrai là-dessus, l'agent pathogène qui cause le paludisme, qui s'appelle un plasmodium, se nourrit dans l'être humain, c'est pour ça que les êtres humains sont malades, et quand il est repiqué par un moustique, il va se reproduire sexuellement dans le moustique. Donc c'est un cycle comme ça complet, où la biodiversité va être essentielle pour l'existence même de cette maladie. Il y a enfin des animaux qui sont malades du fait des êtres humains. Le lycaon, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le lycaon. C'est un canidé d'Afrique, une sorte de loup sauvage. En anglais, on appelle ça le chien sauvage africain, qui est un prédateur absolument exceptionnel. Les meutes de lycaon sont en fait le prédateur le plus efficace qu'il y ait en Afrique, beaucoup plus efficace que le léopard, la panthère ou le lion, par exemple. On sait que le taux de réussite d'une chasse de lycaon, c'est environ 70%. C'est énorme. Chez le lion, ça dépasse à peine 7 à 8%. Donc vous voyez bien la différence qu'il y a entre les deux. Le lycaon, prédateur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse également à tout ce qui est chassable, mais également au bétail. Et pour protéger leur bétail, les éleveurs africains ont utilisé de plus en plus au cours du 19e des chiens, et ces chiens viennent de loin, et ces chiens sont porteurs de deux types de maladies, la maladie de Carré, une maladie banale chez le chien, et la rage également. Or, le lycaon est sensible à ces deux maladies, c'est un canidé, donc il est sensible aux maladies portées par le chien. Et l'introduction de ces chiens de troupeau en Afrique a provoqué des épidémies absolument épouvantables chez toute une série d'espèces africaines, au point de les conduire à l'extinction. Le lycaon aujourd'hui, c'est grosso modo le grand prédateur le plus menacé au monde. Au début du 20e siècle, il en existait 100 000 en Afrique. Aujourd'hui, ça ne doit pas dépasser 2500 à 3000. Le futur du lycaon est foutu. Je veux dire, il ne faudra pas se leurrer. Le lycaon ne survivra que dans des jardins zoologiques, mais il ne survivra pas en Afrique. C'est absolument inimaginable. Et une grande partie de l'extinction des lycaons vient de ces maladies qui ont été transmises indirectement par l'être humain, par l'intermédiaire de son chien, des chiens domestiques. Quatrième et dernier cas, les êtres humains peuvent être eux-mêmes source de maladies pour la biodiversité. Un joli exemple, c'est l'exemple du gorille. Vous savez qu'en Afrique, il y a tout un commerce touristique qui s'est mis en place, où des touristes viennent voir de très très près, parfois à 1 mètre, à 60 cm, des gorilles, dans des zones où les gorilles sont habitués à la présence humaine. Le problème, c'est que les pathogènes que l'on a constamment sur nous, les maladies respiratoires qui nous donnent des petits rhumes qui ressemble à rien en hiver, ces pathogènes qu'on transporte toujours avec nous, même les personnes qui ne paraissent pas malades, on a toujours un ensemble de bactéries et de virus, sont transmis par des postillons, transmis par la salive, par des déchets, des mouchoirs en papier laissés par les touristes. Et ces animaux, gorilles et les chimpanzés, c'est exactement pareil, vont être très sensibles à ces pathogènes qu'on a transmis par nos voies respiratoires. Et on connaît des exemples de petites épidémies dans des zones où il y a des gorilles étudiées par des scientifiques ou approchées par des touristes, où effectivement les gorilles ou les chimpanzés ont été victimes de ces pathogènes apportés par les êtres humains. Et j'ai un ami qui revient du Rwanda qui m'a raconté une scène absolument incroyable. Il y avait une touriste américaine qui avait fait le déplacement pour voir des gorilles, et ce jour-là elle était très malade, elle avait sans doute une maladie intestinale, enfin bref, elle n'était pas capable de marcher. Mais elle a payé en fait les gardes, ils ont fabriqué un brancard, ils l'ont mis sur le brancard, transporté en forêt pour qu'elle puisse approcher des gorilles, en sachant qu'elle était malade. Alors en fait, le problème des gens locaux, c'est qu'ils ne sont pas totalement fous, ils savent très bien qu'un être humain malade peut provoquer des épidémies chez les gorilles qui les font vivre, mais eux, ils sont complètement entre deux... Comment dire ? Ils sont totalement partagés parce que si on gêne les touristes ne viennent pas. Donc c'est soit faire plaisir aux touristes, qu'ils soient contents, qu'ils fassent après de bonnes publicités autour d'eux, et comme ça l'année prochaine il y aura d'autres touristes, soit on essaye de protéger la faune. Il y a tout un commerce qui existe d'ailleurs sur ces lieux où les habitants vont par exemple commercialiser des statues de gorilles aux touristes qui viennent ici. Mais ce n'est pas sans danger, encore une fois, via les maladies qui ne nous rendent pas vraiment malades, mais qui peuvent tuer assez radicalement chimpanzés et gorilles. Donc vous voyez, le rapport entre la biodiversité et la santé, c'est multiple. C'est la santé de l'homme, c'est la santé de la biodiversité, et souvent dans cette histoire, l'être humain va être un acteur de la dégradation de la santé de la biodiversité. Alors je vais vous donner un exemple plus précis sur le paludisme, parce que c'est une histoire absolument fabuleuse. Le paludisme n'existe que s'il y a trois éléments. Le moustique, qui va jouer de vecteur d'une personne à une autre. Les protozoaires responsables de la maladie, Plasmodium falciparum. Alors pourquoi falciparum ? Parce qu'il y a actuellement 4 paludismes différents sur Terre. Il y en a un qui est responsable de la quasi-totalité des décès, c'est falciparum. Et bien sûr des êtres humains. Il faut que le cycle, en fait, soit complet. Le moustique va piquer un être humain infecté, il va récupérer comme ça des protozoaires. Les protozoaires vont se reproduire dans le moustique. Et puis, le moustique va rechercher d'autres êtres humains, il va libérer de nouveaux protozoaires qui vont cette fois consommer en quelque sorte l'être humain. L'être humain n'est pas l'hôte en fait de cette maladie. L'hôte de cette maladie, c'est le moustique. Le buffet, c'est l'être humain. C'est la case restaurant, si vous voulez, de la vie du protozoaire. Et c'est pour ça que les gens meurent, c'est que le protozoaire va consommer énormément de globules rouges et ça va finir par en fait faire effondrer les défenses immunitaires de la personne, et la personne va mourir du fait qu'il n'aura plus assez de globules rouges pour arriver à survivre. Et le taux de décès peut être extrêmement fort, notamment auprès des populations. On a vu ça lorsque les Européens ont fait des voyages d'exploration en Afrique. Le taux de mortalité à une première exposition au paludisme peut être considérable. Comment on a acquis le paludisme ? On l'a acquis, maintenant on le sait de façon un peu plus précise grâce à la génétique. En Afrique centrale, il y a 5000 ans, 10 000 ans, la date n'est pas forcément très très précise. Lorsque les Africains ont commencé à déforester pour faire de l'agriculture, le fait de déforester, ça a augmenté le nombre d'êtres humains et ça a diminué le nombre de gorilles et de chimpanzés. Or, le moustique, qui ne piquait que des gorilles et des chimpanzés, s'est retrouvé face à un problème, une raréfaction des gorilles, raréfaction des chimpanzés, mais une augmentation du nombre d'êtres humains. Il s'est adapté. il s'est adapté à un nouvel hôte, à savoir Homo sapiens. Il a commencé à piquer Homo sapiens. Dans la salive de ce moustique, il y avait un plasmodium qui n'attaquait jusqu'alors que des gorilles ou que des chimpanzés. Ben, il a fait la même chose que le moustique. Il s'est retrouvé de plus en plus régulièrement dans le corps d'êtres humains. Il s'est adapté au point où Plasmodium falciparum, à l'origine maladie purement de grands singes, est devenu une maladie purement humaine. Falciparum n'attaque pas les gorilles, n'attaque pas les chimpanzés, n'attaque que les êtres humains, c'est devenu une maladie humaine. On a acquis, comme ça, par transfert, une nouvelle maladie. Mais l'être humain a contribué à aggraver la situation du paludisme. Comment ? En faisant du commerce. Les personnes qui étaient contaminées et qui vivaient en Afrique, à cause du commerce transsaharien, encore une fois, les dates ne sont pas très précises, mais il y a probablement 3 ou 4 000 ans, ont transféré, en fait, sont venus en Afrique du Nord, porteurs dans leur sang de paludisme. Manque de bol, en Afrique du Nord, il y avait un moustique capable de véhiculer ce paludisme. Et donc la maladie s'est installée d'abord en Afrique du Nord, puis avec les voies, encore une fois, de commerce et de guerre, s'est installée dans les îles de Méditerranée, Sicile, Sardaigne, Corse. Et l'arrivée, par exemple, des troupes de Carthagène, vous savez, les fameux Hannibal, les fameux éléphants d'Hannibal, lorsque Hannibal a tenté d'envahir Rome, à ce moment-là, c'est daté aussi, en fait, le paludisme est arrivé en Italie centrale, dans le Latium, vous savez, la région qui entoure Rome, et Rome est devenue, enfin le Latium est devenu une zone à paludisme, à falciparum. Énormément de personnes sont mortes parce qu'il y avait un foyer qui n'est pas du tout naturel, entre guillemets, qui a été introduit par l'homme dans cette région-là. Mais ça ne s'est pas arrêté là, comme vous pouvez l'imaginer, parce que le commerce a continué, soit d'Afrique vers l'Asie, soit d'Europe, du bassin méditerranéen vers l'Asie, et le paludisme a vu, en fait, son aire d'expansion augmenter. Et puis, dernier temps, on a, soit via des voyages d'Européens, soit à cause de la traite négrière, transféré cette maladie d'Afrique et d'Europe vers les Amériques. On a transféré également, alors là spécialement d'Afrique, la fièvre jaune. La fièvre jaune n'existait pas dans les Amériques, il n'existait qu'une variante très faible du paludisme, et c'est à cause du commerce transatlantique qu'on a transféré ces maladies qui se sont implantées. Donc vous voyez, quand on parle comme ça d'un paysage de maladies, il faut toujours imaginer que l'être humain derrière est actif et a transformé les choses, pas forcément à son avantage. Le paludisme aujourd'hui, c'est quand même 429 000 morts chaque année, en 2015, et ça représente 212 millions de personnes infectées, essentiellement dans l'Afrique subsaharienne. C'est un résultat qui est double. Il est à la fois catastrophique. C'est scandaleux qu'en 2015, il y a encore pratiquement un demi-million de personnes qui meurent du paludisme. Il faut savoir que c'est une maladie qui est facile à éviter. Ce n'est pas une maladie qu'on peut éradiquer, on ne peut pas la supprimer, mais on peut l'éviter simplement en améliorant les conditions de vie. C'est une maladie de pauvres, en fait. C'est pour ça qu'elle existe dans l'Afrique subsaharienne, parce que c'est une région où la pauvreté est absolument extensive, d'où la persistance du paludisme. Mais on vient de loin, parce qu'imaginez qu'en 2000, on était à 839 000 morts. Et que si on remonte encore un petit peu dans le temps, dans les années 80, chaque année, c'était 1 à 3 millions de morts. Alors certes, le résultat n'est pas bon, on ne peut pas se glorifier d'avoir encore 429 000 morts en 2015, mais on vient de très très loin et globalement, on a amélioré les choses. À terme, on peut très bien imaginer d'avoir une mortalité extrêmement faible. On sait d'ailleurs comment il faudrait faire, essentiellement par l'éducation, essentiellement en permettant aux femmes dans les villages de gérer la question du paludisme avec quelques éléments de santé rudimentaires, et on pourrait réduire ce chiffre encore considérablement. Il faut imaginer qu'à côté des morts, il y a aussi toutes les personnes malades qui ne peuvent pas travailler à cause des fièvres récurrentes et de l'état de faiblesse dû au paludisme. Il faut imaginer aussi que ce genre de maladie influe considérablement sur l'état de santé soit des embryons, soit des enfants, ce qui fait que ces enfants malades deviennent des adultes qui vont être moins aptes au travail, moins capables, en fait, de nourrir leur famille. Donc c'est un problème qui va avoir, comment dire, un temps long, extrêmement fort. Il faut savoir que ces maladies infectieuses, c'est vraiment l'interface la plus forte que l'on a avec la biodiversité. Si on doit déterminer un élément de santé humaine et de biodiversité, c'est vraiment les maladies infectieuses qui viennent toutes ou presque de la biodiversité. On peut donner, alors je vais sauter l'exemple de la tuberculose, sinon ça va être un petit peu long, je vais juste vous montrer cette carte. La tuberculose, c'est une maladie acquise très probablement à l'origine auprès des chevaux ou auprès des chameaux. On ne sait pas exactement encore, on n'a pas réussi à élucider ça, mais c'est une acquisition intimement liée aux animaux domestiques. Au XVIIIe siècle, la tuberculose était en Europe la première cause de mortalité. Imaginez, la première cause de mortalité, c'était la tuberculose. Pour des raisons qu'on ignore, cette mortalité a baissé au XIXe siècle. On n'a pas de médicaments à l'époque. On sait à peu près prendre soin des personnes tuberculoses, mais on n'a pas de thérapeutique efficace à cette époque. L'explication la plus probable, c'est que, vu la mortalité qui est au 18e, ceux qui ont survécu étaient résistants et ont transmis la résistance à la tuberculose à leurs descendants. Donc en fait, ça fait une sélection naturelle, par une quantité de morts absolument considérable, et les survivants étaient devenus résistants. Au XXe siècle, il se passe un phénomène incroyable. C'est que la tuberculose continue de chuter en Europe de façon extrêmement nette, et les antibiotiques n'arrivent que là. Quand on vous dit c'est grâce aux antibiotiques qu'on a éradiqué la tuberculose, c'est pas vraiment vrai. On a, en fait, fini le travail d'une disparition qui était programmée de longue date. Même si les antibiotiques n'étaient pas arrivés, si vous voyez le profil de la courbe, on serait arrivé à peu près au même stade, avec peut-être 20 ans de différence. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et vous voyez également l'impact qu'il y a des guerres dans une maladie comme la tuberculose. Il faut savoir aussi que la tuberculose était, dans les années 70, au bord de la disparition totale. Et ce qui a revivifié le problème de la tuberculose, c'est le sida. En fait, les personnes immunodéprimées, à cause du VIH, ont permis à la tuberculose de revenir en force. Il faut savoir que la première cause de mortalité chez les personnes atteintes, enfin porteuse du VIH, c'est la tuberculose. La tuberculose, en fait, se développe en fonction du système immunitaire. Donc une maladie qui fait affaiblir le système immunitaire favorise la tuberculose. C'est ce qui s'est passé. Il reste quand même qu'il y a une évolution absolument forte. Alors, c'est totalement illisible, parce que l'écran est tout petit, j'en suis absolument désolé. Mais je vais vous expliquer. Il y a trois couleurs, vous arrivez à voir. La couleur violette, ici, il s'agit des maladies infectieuses. La couleur verte, ici, c'est l'ensemble maladies cardiovasculaires, cancer et diabète. Et les maladies jaunes, c'est les autres causes de mortalité. En 1900, aux États-Unis, première cause de mortalité, tuberculose, suivie de la pneumonie, suivie des maladies diarrhéiques chez les enfants, essentiellement. Donc on peut voir que les trois premières causes de mortalité aux États-Unis en 1900 étaient des maladies infectieuses. Aujourd'hui, ces causes de mortalité ont complètement changé. Les maladies infectieuses ont totalement disparu des causes de mortalité aux États-Unis. Reste la grippe, mais pour un tout petit pourcentage, 3,7%, l'essentiel des causes viennent des maladies cardiovasculaires, cancer et diabète. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de cancers aujourd'hui qu'en 1900 ou en 1800 ne vient pas vraiment de nos modes de vie, c'est pas la pollution, c'est l'allongement de l'espérance de vie par la disparition d'autres causes de mortalité. On meurt plus de tuberculose, on meurt plus de variole, on meurt plus de toute cette série de maladies infectieuses, on meurt d'autres choses, mais surtout on meurt beaucoup plus tard, on meurt beaucoup plus vieux. Et du coup, le cancer, qui est typiquement une maladie de la vieillesse, fait effectivement cette part maintenant prédominante. J'insiste là-dessus, il ne faut pas mal interpréter la cause réelle de l'émergence du cancer comme maladie importante. Si on regarde l'évolution de l'âge des décès à trois époques, préhistoire, 19e, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. À la préhistoire, vous voyez que à 5 ans, il y avait un survivant sur deux. Une personne sur deux était déjà morte à 5 ans dans la préhistoire. Les gens qui disent « Ah, la préhistoire, c'était bien mieux, on vivait extrêmement bien dans un air pur, sans pollution », oui, mais avec les maladies infectieuses qui tuaient énormément. Maladie diarrhique, par exemple. Mais également, n'importe quelle infection un peu forte, vous blessez, la plaie s'infectait, en général, on en mourait. À 70 ans, il n'y a pas de survivant. À 40 ans, une personne sur 5 a survécu. Vous vous rendez compte, c'est pas vrai. Les choses s'améliorent lentement au fil du temps. Si on regarde l'Angleterre de 1860, c'est assez proche, c'est tout proche de nous, on a presque la même courbe, pas totalement. On voit bien que les maladies de l'enfance ont régressé. À 5 ans, il n'y a plus que 25% des enfants qui sont morts. Pas beaucoup. Enfin, c'est un enfant sur 4, mais c'est moins qu'un enfant sur 2. Effectivement, l'espérance de vie s'allonge considérablement. Si on regarde Liverpool, ah, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que Liverpool, c'est une ville industrielle. Et là, on voit le poids de l'industrie. Il faut imaginer que dans les villes britanniques, on vit moins longtemps. Les villes industrielles britanniques, comme Liverpool, Manchester, on vit moins longtemps qu'au Moyen-Âge. La mortalité est absolument effrayante. Et si on arrive à faire tourner les manufactures avec un personnel au complet, c'est simplement parce qu'on remplace les gens qui sont morts par des gens qui viennent des campagnes, des gens pauvres qui viennent des campagnes tenter leur chance dans les villes. Mais vous voyez, la différence est absolument manifeste. Aujourd'hui, il y a une immense différence entre les pays développés, ici, et les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement, c'est pas très différent de l'Angleterre de 1860. Taux de mortalité infantile toujours très forte. On arrive ici à 25% également. Et puis une espérance de vie relativement plate. Et là, c'est les pays développés, c'est nous, par exemple, avec une mortalité infantile presque nulle, et donc une espérance de vie extrêmement forte. Je vous mets toutes les courbes, mais on va passer outre. Alors bien sûr, ce paysage, cette relation avec la biodiversité peut évoluer. Un exemple, j'aurais pas dû prendre le virus Zika, j'aurais dû prendre le VIH. Le VIH, ce virus qui provoque le sida, est une maladie acquise auprès de la biodiversité. C'est très certainement un virus de singe qui s'est adapté à l'être humain, puis après qui s'est répandu chez les êtres humains. Et il faut imaginer que le VIH est un virus qui est l'une des trois premières causes de maladies infectieuses mortelles dans le monde. C'est absolument considérable. Le virus Zika, on en a beaucoup entendu parler, parce que effectivement, il y a eu une expansion extrêmement forte. Ça, c'était entre 15 et 16. Et vous voyez, l'expansion de la maladie a été extrêmement nette en quelques années. Le problème de Zika, c'est que ce n'est pas une maladie extrêmement grave. Si ce n'est qu'on ne connaît pas forcément dans ce genre de nouveaux virus les effets à long terme. C'est la même chose que pour le chikungunya par exemple. On ne sait pas les effets à long terme d'un point de vue neurologique. Est-ce que c'est des maladies qui disparaissent complètement une fois qu'on est guéri, ou c'est des maladies qui restent en sourdine dans le corps? On sait par exemple que le virus Ebola, même si on survit à l'infection du virus Ebola, ne disparaît pas. Il reste dans le corps. Et on connaît des personnes qui ont perdu la vue parce que le virus s'est attaqué en fait au nerf oculaire, et les personnes sont devenues aveugles à cause du virus Ebola qui est toujours là, alors que les signes cliniques ont disparu par ailleurs. La maladie n'est pas simplement qu'un virus ou une bactérie, il faut aussi parfois, et ça interroge la biodiversité, interroger les vecteurs. Et le moustique-tigre est un bon exemple, parce que le moustique-tigre, c'est une superbe bête. C'est très, très joli. Vraiment, c'est très, très beau. Alors, je ne sais pas si vous avez... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà été piquées par des moustiques-tigres ? Non, personne. Alors ça, c'est marrant, parce que quand je fais une conférence dans le sud de la France, je vois une armée de bras se lever, tout le monde y est passé. Là, vous êtes encore à un moment où vous pouvez bénéficier d'une absence de moustique-tigre. Il faut savoir que le moustique-tigre n'est pas nocturne, il est diurne. Donc en fait, si vous êtes piqué la nuit, la journée, vous êtes piqué à nouveau par d'autres moustiques, donc c'est quand même assez sympa. Il est beaucoup plus petit que les moustiques habituels. Il vole sans bruit, donc vous ne pouvez même pas le repérer. Il est capable de piquer à travers un jean. C'est assez spectaculaire. Et le problème, c'est que le moustique-tigre vient d'Asie. Il a été introduit dans les années 60-70 en Albanie. Vous savez comment ? Avec des vieux pneus. Le régime, enfin, l'État d'Albanie a acheté des vieux pneus de Chine pour les brûler dans ses cimenteries. En fait, on utilise les vieux pneus comme carburant pour fabriquer le ciment. Sauf que le pneu, c'est des réserves d'eau quand même assez géniales sur un bateau. Or, le moustique-tigre a comme particularité d'arriver à survivre dans ces petites poches d'eau de façon assez remarquable. Donc, il a fait le voyage, il s'est implanté en Albanie, de là, il s'est étendu en Europe, il s'est étendu, il se trouve partout en Italie, j'ai fait le test, partout. L'été, quand vous allez en Italie, vous allez vous faire bouffer par le moustique-tigre. En plus, moi, je suis allergique au moustique-tigre, donc ça se voit tout de suite, ça fait des auréoles de 10 cm. Donc, je vous assure, et ça s'infecte régulièrement, parce que ça transporte également pas mal de bactéries. Donc, vous avez intérêt d'avoir non seulement une pommade qui calme l'inflammation, des corticoïdes, mais aussi d'avoir un désinfectant pour vous désinfecter la piqûre du moustique. Dans le midi de la France, c'est bien installé, et c'est en train de remonter. On est en train de le détecter autour de Paris, donc ça devrait arriver dans votre coin d'ici quelques années. Ne soyez pas jaloux du midi de la France, vous allez partager. Et vous voyez, actuellement, en rose, c'est là où il est bien installé. Et vous voyez que peu à peu, il est en train de coloniser vers le nord de la France. Et le dérèglement climatique risque de favoriser son expansion. Ce n'est pas la cause de son expansion, puisqu'il serait arrivé tout seul. Il est c'est une belle bête, très adaptée. Mais le dérèglement climatique va augmenter. Et puis, il y a la bêtise humaine qui est insondable. Vous connaissez l'expression d'Einstein qui disait qu'il y a deux choses infinies. Il y a l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de preuves. Et bien là, je vais vous donner un exemple de ce caractère infini de la bêtise humaine. Ça, c'est un... Bon, il ressemble à rien, parce qu'il est un peu étiré. C'est un aigle huppé. Et un collectionneur belge imagine qu'il a une collection de rapaces vivants. Il lui faut absolument un couple d'aigles huppés venant d'Asie. Donc, il paye 15 000 euros, quand même, à un passeur thaïlandais pour que le passeur rapporte dans ses bagages un couple d'aigles vivants. Alors, comment on passe des aigles à la douane ? Imaginez bien, c'est pas sur le bras devant le douanier. En fait, les oiseaux sont ligotés, en fait, ils se tiennent réellement comme ça. Et on peut mettre assez facilement, en fait, il y a par exemple des passeurs qui se sont fait arrêter avec des perroquets ou des perruches attachés autour de la jambe, un peu comme une cartouchière. Et dans chaque emplacement de cartouche, il y avait un oiseau. Ce couple de rapaces a été intercepté par les douanes. Le passeur a été arrêté, le collectionneur belge a été poursuivi et les oiseaux ont été immédiatement euthanasiés. Alors, ça paraît cruel, mais je vais vous expliquer pourquoi ça peut reposer sur des arguments qui ne sont pas infondés. On les a euthanasiés et on les a testés d'un point de vue sanitaire. Et ils étaient porteurs de la grippe H5N1, qui est une variété de grippe qui ne touche que les oiseaux, mais qui parfois peut se transmettre également à l'être humain. Et le danger, c'est que ce parfois se transforme en toujours, systématiquement, qu'il y a un réel passage. C'est le grand danger des grippes aviaires, c'est quand la grippe aviaire n'est pas qu'accidentelle pour les êtres humains, mais devient systématique. Surtout que là, cette grippe H5N1 tue 50% des personnes infectées. Quand même pas rien. Je vous rappelle, la plus forte grippe qu'il y a eu sur Terre, c'est la grippe espagnole, et de mémoire, c'était 3%. Là, on passe à 50%. On est au niveau de la peste noire. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, vous voyez qu'on transmet, d'ailleurs, c'est valable pour les plantes, des plantes, on transporte des plantes ou des animaux vivants, sauvages, il y a toujours le risque de cette transmission de maladies absolument imprévisible. Ah ben, je vous parlais de la grippe, je vais vous donner cet exemple. Alors, Egon Schiele, vous ne connaissez peut-être pas forcément, c'est un artiste autrichien, Guillaume Apollinaire, ça on ne présente pas, Edmond Rostand, qui a écrit notamment Les Glands, et ils ont une caractéristique, ils sont morts tous les trois en 1918, au moment de la grippe espagnole, justement. Et cette grippe espagnole, ça n'a pas été à rien, parce qu'en trois vagues successives, ça a tué dans le monde entre 20 et 40 millions de personnes. C'est quand même pas rien. Et certaines estimations vont jusqu'à 100 millions. Le bilan en France, c'est quand même 120 000 morts. Imaginez. Alors que le taux de létalité est un taux assez faible. Tout à l'heure, je parlais de 50% pour H5N1. Là, on est à 2,5% seulement. En plus, ça touchait essentiellement les enfants, les jeunes. Alors, on s'est interrogé sur cette raison, et la cause, c'est simplement que les adultes, quand eux-mêmes étaient jeunes, ont peut-être été exposés à une forme assez proche de cette grippe. Ils ont développé des anticorps qu'ils ont conservés en vieillissant, et quand la grippe espagnole est arrivée, ils étaient protégés, tandis que les enfants qui n'avaient pas été exposés auparavant à cette grippe n'avaient pas de... Et ce qui est intéressant, c'est les séquelles. C'est que cette grippe a laissé de nombreuses séquelles, comme la maladie de Parkinson ou l'encéphalite léthargique. Une sorte de forme de maladie du sommeil. Bien sûr, on s'inquiète, parce que, vous savez, avec le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, vous avez ici, c'est le pôle Nord, vous avez des zones qui étaient constamment gelées, le permafrost, là, le sol était gelé en permanence toute l'année, et qui maintenant commence à être dégelé. Et dans le cas des cimetières dans le Grand Nord, on s'est dit, oui, mais le danger, c'est ces personnes qui, en 1918, dans ces régions, sont mortes de la grippe espagnole, pourraient en fait être déterrées. On pense notamment aux travaux de recherche d'hydrocarbures, qui peuvent très bien, on a eu des cas, c'est pour ça que j'en parle, où on va déterrer comme ça des cimetières et exposer des personnes qui seraient peut-être encore porteurs, des corps, de grippe espagnole. On a quand même une chance énorme, c'est que la grippe survit assez peu au froid. Donc, ça va être dégradé. Mais on a d'autres exemples, non pas de grippe, encore une fois, il n'y a pas grande peur, mais d'autres choses. Ça, c'est la momie de Ramsès V. Et en fait, sur la photographie de cette momie, on voit très clairement des éléments qui montrent qu'il est mort de variole, en tout cas qu'il a été infecté par la variole. Et ce virus, contrairement à la grippe, survit très bien au froid. Donc on aura, inévitablement, avec le réchauffement climatique, des corps qui ont de la variole, qui vont être revenir à la surface, si j'ose dire, et transmettre la variole. C'est inévitable. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait bien fabriquer des bons virus contre la variole. On sait le faire, on a la technologie. Donc, le danger est plus limité qu'avec le VIH, par exemple, où on est absolument incapable de fabriquer un vaccin parce que le virus, lui, est extrêmement mutant. La variole, c'est plus simple. Oui.
Je croyais que le virus ne pouvait se conserver que dans des cellules vivantes.
Pas nécessairement. La variole est très résistante à beaucoup de choses. Enfin, le virus de la variole. Mais c'est très, très, très résistant à beaucoup de choses. On a des virus qui sont capables de survivre à des conditions pas possibles. Tout virus... Enfin, encore une fois, il y a... Ça dépend quel type de virus. Vous avez des virus plus ou moins fragiles. Le VIH, par exemple, quelqu'un qui est porteur, qui saigne, en fait, le virus lui-même va disparaître très vite du sang. Une fois que le sang sera sec, en voie de décomposition, ça se passe extrêmement rapidement. Ebola, pas du tout. Ebola, le grand problème d'Ebola, c'est qu'une personne qui mourait d'Ebola, on prenait son corps et on l'emmenait dans son village, dans une voiture taxi. Et puis après, on lavait le corps et l'eau du lavage du corps, on s'en aspergeait, et ça faisait une contamination pas possible, parce que le virus Ebola est très résistant. Donc en fait, la résistance à post-mortem, si vous voulez, est très variable en fonction du virus. Tous les virus ne sont pas soumis à la même chose. Alors, on avait quatre paludismes, je vous ai dit tout à l'heure. Et bien l'être humain, toujours dans ses idées géniales, est en train d'acquérir un septième paludisme. Je vous ai dit tout à l'heure que le paludisme falciparum, comme d'ailleurs les trois autres, ont été acquis auprès des singes, des grands singes. Ben là, on est en train d'acquérir un nouveau paludisme auprès des macaques, en Indonésie et Malaisie. Alors pourquoi dans ces deux pays? Parce que dans ces deux pays, il y a eu de la déforestation considérable. Imaginez, ça c'était en 1950, ça c'est en, je ne me trompe pas, 2010, 2020, ça sera un petit peu pire, et presque aussi pire que l'étape précédente. Pourquoi on déforeste ces pays? Pas tellement pour installer des populations, pour installer ceci, que vous connaissez certainement, c'est les palmiers à l'huile. Ça, c'est pas de la forêt, hein. C'est des plantations. Si vous voyez la photographie de près, d'une part, toutes les plantes ont la même tête, et c'est absolument aligné, peigné, etc. Et ça, c'est des futures plantations. On remplace cette forêt pour mettre des palmiers à l'huile. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il existait, en fait, un trio, comme pour le gorille, un plasmodium, Pnolessi, cette fois, des macaques, et un moustique particulier. Et ça vivait, son petit trio, tranquillement dans son coin. La forêt disparaissant, le nombre de macaques a diminué, le moustique a été confronté à un problème. Pour survivre, qui puis-je piquer? Et là, subitement, il y a eu des êtres humains en plus grand nombre, c'était les ouvriers forestiers. Et donc, le moustique s'est adapté à ce nouvel hôte, et le plasmodium s'est lui aussi adapté à ce nouvel hôte. L'histoire pourrait s'arrêter là, une infection accidentelle locale. Sauf que les ouvriers qui travaillent en Malaisie, qui travaillent à Bornéo, par exemple, sont des migrants, sont des travailleurs immigrés, qui retournent chez eux une fois la saison finie. Chez eux, c'est Thaïlande, Vietnam. Et quand ils reviennent, ils sont porteurs, leur sang est porteur de ce nouveau paludisme. Et en fait, ça fait des infections nouvelles, là où le paludisme n'existait pas du tout, à savoir le sud de l'Asie, Thaïlande et Vietnam notamment. Et ce qui contamine d'être humain à être humain. Le macaque a été éliminé. Et le problème, c'est que le plasmodium est très mortifère. Exactement comme falciparum. On a des taux de mortalité qui oscillent entre 25 et 40%. C'est considérable. Pour l'instant, on a du bol. Ce plasmodium est sensible à la quinine, vous savez, ce médicament qui soigne le paludisme. Mais ce plasmodium va faire comme tous les plasmodiums, il va s'adapter à la quinine. Et quand on n'aura plus de médicaments pour lutter contre ça, on aura un vrai, très gros problème sanitaire. D'autant que c'est des régions touristiques. Donc je vous laisse... En même temps, s'il y a des touristes, et si ces touristes sont américains, ça peut susciter des recherches actives. C'est-à-dire, on sait que les maladies les plus étudiées, je peux vous dire, j'ai vu ça de près à l'Institut Mérieux, je ne devrais pas les citer, mais les maladies étudiées, c'est celles où il y a des gens prêts à payer le médicament ou le vaccin. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de touristes, s'il n'y a que des pauvres, s'il n'y a pas de militaires, ça n'a pas d'intérêt. S'il y a des touristes, par contre, ça change. S'il y a des militaires, par exemple, si vous avez un pays avec un régime armé, une armée extrêmement bien payée, ben là, il y aura de l'argent pour payer des médicaments. Et ça oriente la recherche. Les maladies qu'on écarte, ça ne touche que des pauvres. Mais par contre, les maladies qui touchent les riches, c'est absolument fabuleux. Alors, j'aimerais insister sur un petit point, c'est l'importance accordée dans la destruction de la biodiversité à la démographie humaine. Parce que je pense qu'il y a une erreur de lecture qui est faite. Ça, c'est la courbe de l'augmentation démographique. On dit, mon Dieu, c'est horrible, vous vous rendez compte, entre 1820 et aujourd'hui, on est passé grosso modo d'un milliard à 8 milliards. Sauf que dans le même temps, effectivement, ça fait une augmentation de la population à peu près de 7. Mais il n'y a pas que ça qui a augmenté. L'énergie, consommation d'énergie a augmenté de 40. Et le capital a augmenté de 134. Dans les facteurs qui épuisent la biodiversité, je veux bien croire qu'il y a la population, mais il y a surtout les modes de vie, et les modes de vie inégalitaires, ce qui fabrique le capital d'ailleurs. Ça, c'est une cause beaucoup plus forte de la dégradation de la biodiversité que la population seule. encore une fois, on diviserait par 4 le nombre d'êtres humains sur Terre, mais s'ils vivaient de la même façon que les Américains, ça ne serait toujours pas bon. C'est le mode de vie qu'il faut changer. Alors, je vais revenir là. Oui, il y a un autre phénomène qui est inquiétant, qui a directement à voir avec la biodiversité, c'est la question de la croissance des inégalités. Ça, c'est des travaux de Piketty et de son équipe, qui montrent aux États-Unis, mais c'est un bon exemple, le revenu moyen, en fait, a augmenté un petit peu. Ah, 100 dollars constants, hein, on ne tient pas compte de l'inflation, 100 dollars constants. Mais par contre, les plus riches, le 1% le plus riche, a vu ses revenus augmenter absolument de façon considérable. Or, on sait que l'augmentation des inégalités sociales aggrave les conditions sanitaires de l'ensemble de la société, à tout point de vue. D'un point de vue physique, les maladies organiques, mais également d'un point de vue psychologique. Le nombre de pathologies psychiatriques augmente avec les inégalités sociales, parce que ça fait un monde plus dangereux, et du coup, on est en moins bonne santé. Alors, ça je saute, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, je sais que je suis toujours très bavarde, donc je me méfie au niveau du temps. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, on a fait une courbe entre deux éléments. C'est toujours les courbes, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple et rigoureux. On a réparti les pays en fonction des inégalités de revenus. Plus le pays est de ce côté, plus les inégalités sont fortes. Plus il est de ce côté, moins les inégalités sont fortes. Par exemple, la Finlande, le Japon est très peu inégalitaire. Et les États-Unis, comme ça doit vous étonner, mais c'est un pays extrêmement inégalitaire. Derrière, il y a le Portugal. Le Portugal est le pays d'Europe occidentale le plus inégalitaire qui existe. Et on a réparti sur l'échelle verticale, cette fois, une sorte d'indice des problèmes sanitaires et sociaux. Dans ces indices, c'est à la fois la qualité de vie, comme je vous disais, des personnes, le nombre de grossesses précoces qui existent, qui dénotent, en général, c'est lié aux inégalités. Et là, on se rend compte que ben, la courbe est très très nette. Plus l'inégalité est forte, plus la dégradation des problèmes sanitaires et sociaux augmente. C'est simple. Si on veut un pays en bonne santé, il faut qu'il y ait très peu d'inégalités sociales. Si on veut un pays en mauvaise santé, on augmente les inégalités sociales. Ça marche à tous les coups. Alors on s'est dit, ouais, mais il y a peut-être des différences entre pays. Comment comparer le Japon à la France, par exemple ? Ben, on a pris l'exemple des États-Unis. On a fait exactement la même chose, non pas avec tous les États américains. On peut estimer que tous les États américains vivent à peu près suivant les mêmes normes culturelles, sociales, de consommation. Et bien en fait, on a exactement la même courbe. Les États américains les plus inégalitaires, c'est là où il y a la situation sanitaire sociale la pire. Toujours, on constate cette corrélation entre inégalité et questions sanitaires et sociales de façon universelle. Et comme je vous disais, c'est le niveau d'anxiété qui a été fait sur des études couvrant quand même 52 000 personnes depuis 1950. Et on voit qu'on fait la répartition, que plus on a avancé dans le temps, plus, là il s'agit des hommes américains, mais on a des études comparables sur les enfants, sur les adolescents, c'est extrêmement intéressant, mais plus on a avancé dans le temps, plus en fait les personnes ont montré des comportements anxieux en fait. Et pourquoi? Comment on l'explique? C'est simple, si on superpose l'évolution des inégalités, c'est exactement la même chose. Les inégalités produisent ainsi ce niveau d'anxiété de plus en plus fort. Alors, actuellement, la biodiversité va très 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 mal, et elle va très 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 mal, notamment, je dirais, à cause des maladies transmises par l'être humain, directement ou indirectement. Et je vais vous parler des amphibiens, grenouilles, crapauds, salamandres. Et notamment, il y a une maladie qui touche l'ensemble des amphibiens de la planète, qui s'appelle la chytridiomycose. Imaginez au Scrabble, alors là, ça, c'est un mot qui compte. Bon, il faut rajouter quelques lettres, hein. On ne peut pas le faire d'un coup, mais... un champignon qui s'appelle Batrochochytrium dendrobatidis, facile aussi. Et c'est une maladie qu'on a repérée il y a déjà quelques années. Et c'est une maladie absolument effroyable. Alors je vous rappelle, hein, les amphibiens, c'est 7000 espèces dans le monde. Grenouilles, crapauds, grenouilles terrestres. Et actuellement, alors c'est une carpe, il faudrait vraiment que je la renouvelle parce que l'Ouganda, ça y est passé. Enfin bref, c'est là où on a repéré la chytridiomycose. Que fait ce champignon? Il attaque, vous savez que chez les grenouilles, les amphibiens en général, il y a l'épiderme ne joue pas le même rôle que chez nous. Il joue un rôle essentiel dans la respiration en assurant en fait le transfert d'oxygène et d'humidité entre le corps et le milieu extérieur. Et ce champignon perturbe en fait cette interface qu'il y a entre la peau et l'atmosphère et finit par tuer l'animal. Il y a 200 espèces qui sont menacées sur un total de 7000 et certaines ont déjà disparu à cause de ce champignon. On le sait parce qu'on a des exemples précis en Amérique centrale et en Australie. Et les échanges commerciaux sont l'élément fondamental de la dissémination de cette maladie. Pourquoi ? Ben figurez-vous que le commerce d'amphibiens vivants, de grenouilles, de crapauds vivants, c'est un commerce juteux. Chaque année sur Terre, on échange des millions de grenouilles. Vous allez me dire pourquoi faire ? Un peu pour la cuisine, un peu pour la recherche scientifique, et un peu également pour les amateurs de terrariophilie, qui ont un terrarium très fier d'avoir dedans une grenouille exotique. On a fait des tests sur un aéroport chinois, sur une cargaison de grenouilles vivantes, et 70% des grenouilles vivantes testées étaient porteuses de chytridiomycose. Donc ça se diffuse dans tous les sens. Cette histoire serait déjà pénible, imaginez 200 espèces en voie de disparition. Mais là, c'est une deuxième chytridiomycose qui vient d'apparaître, qui touche les salamandres. Cette fois, on a Batrachochytrium salamandroivorans. Là aussi, imaginez au Strabole. Alors, les salamandres, je ne vous les présente pas. C'est une bête absolument magnifique. Vous en avez ici dans le coin, dans la région, des salamandres ?
Voilà.
Bah, profitez-en, parce que bientôt, vous n'en aurez plus. Alors, mes conférences ont une caractéristique, c'est de plonger l'auditoire dans un désespoir sans fin. Donc, En 2000, on se rend compte qu'il y a une mortalité très très forte des salamandres aux Pays-Bas. Quand je dis très très forte, c'est vraiment très très forte. En 2004, 96% des salamandres ont disparu. Alors là où il y avait des salamandres, il n'y en a plus après. Les Néerlandais ont été paniqués, ils ont commencé à récolter des salamandres pour les mettre en élevage, pour essayer de se dire, bon, si elles meurent dans la nature, au moins on en aura en élevage pour les relâcher. Et les élevages eux-mêmes ont été touchés. Donc finalement, on a fait une enquête, mais vous allez voir, ça prend du temps, parfois. Et c'est en 2016 seulement, pardon, c'est en 2014, j'ai oublié de mettre une ligne, c'est pas grave, c'est en 2014, quasiment une dizaine, plus d'une dizaine après son introduction, qu'on a su que c'est un nouveau champignon qui s'attaquait, non pas à l'ensemble des amphibiens, mais juste aux salamandres et aux tritons. 2016, la Belgique et l'Allemagne sont atteintes. Quand vous allez en forêt, je vais faire un petit quiz. Qui parmi vous désinfecte ses bottes après ? Personne ? Alors, le problème, vous allez en forêt, chercher des champignons, profiter de la lumière automnale ou je sais pas quoi. Sauf que vos bottes, il y a de la terre, il y a de la boue, il y a de la mousse et il y a des champignons. Ah, pas sous la forme du chapeau, sous forme moins visible. Or, si vos bottes, vous les utilisez ailleurs, vous allez transporter dans vos bottes les contaminants que vous pouvez avoir. C'est arrivé. Alors, l'expansion en Belgique et en Allemagne sont sans doute en partie naturelles et en partie humaines. C'est-à-dire, les gens, il faudrait maintenant apprendre, chaque fois que vous allez quelque part, vous allez dans votre voiture, vous avez de la javel, de l'eau, vous désinfectez vos bottes. Logiquement, il faudrait désinfecter aussi la voiture si elle a été dans les champs. Non mais, vous avez l'air de dire c'est incroyable. Mais n'empêche que c'est la seule façon d'échapper à ça. Il faut savoir qu'on a testé toutes les salamandres d'Europe et tous les tritons d'Europe, ils sont tous aussi sensibles. 97% ou 96% de disparition, c'est l'espèce disparaît. C'est pas qu'elle va réapparaître, l'espèce est éradiquée. Les Américains sont extrêmement inquiets, parce que figurez-vous qu'il y a un hotspot de diversité des salamandres aux États-Unis. La plupart des salamandres qui existent sur Terre existent en Amérique du Nord. Ils ont testé leurs salamandres. Résultat, elles sont tout aussi sensibles que ça. Le champignon, on sait d'où il vient. Il vient d'Asie et il est arrivé en Europe via des salamandres vivants destinés à des éleveurs, des terrariophiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soit libéré des salamandres asiatiques dans la nature, soit vidé un aquarium dans la nature. Et donc les eaux contaminées ou un animal contaminé a provoqué l'épidémie. On a la même chose aux États-Unis avec les chauves-souris. Pareil, des gens qui avaient des vêtements contaminés, qui sont venus en Europe voir des chauves-souris, sont partis aux États-Unis et ont contaminé en fait une grotte, en particulier, on a tout l'historique, à cause de ces vêtements contaminés. Donc encore une fois, pensez-y, c'est pas anodin. Vous allez quelque part, dans une grotte, dans une forêt, faut vous désinfecter. Ça change la vie, hein, c'est pas aussi simple après. Alors, par exemple, je vais vous parler de la mineuse du marronnier. Je vais en parler un petit peu vite. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. C'est un petit insecte, très petit, parce qu'à l'âge adulte, il fait entre 3 et 5 mm. Et en 1984, on le repère ici. Alors, on ne sait pas exactement d'où il vient, lui. Autant les chytrides, on sait qu'elles viennent d'Asie, parce que les salamandres asiatiques sont résistantes aux chytrides. Oui, et je vous parlais des salamandres et du commerce de salamandres. Imaginez bien qu'il n'y a aucune interdiction du commerce de salamandres du jour d'aujourd'hui. Et on continue de transférer des salamandres et des amphibiens partout dans le monde. Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est l'appât du gain, le goût du commerce. Pas du tout. Je pense que c'est plutôt un niveau élevé d'indifférence. Pas tellement de bêtises, mais d'indifférence. On ne va pas arrêter de faire du commerce pour sauver une salamandre. Enfin, ça paraîtrait inimaginable. Les intérêts commerciaux sont extrêmement faibles. Vous imaginez bien que le commerce de salamandre, ça ne fait pas vivre 50 millions de personnes. Ce n'est pas les intérêts commerciaux qui sont. C'est plus un niveau d'indifférence. On ne s'intéresse pas à ces questions-là. Trop compliqué, on ne va pas faire une loi pour ça. On laisse couler. Et du coup, ça coule au sens, un autre sens. Donc, 84, on voit ce papillon ici. Et peu à peu, il va connaître une expansion. 89, avec un deuxième foyer d'infection en Autriche. 91, 93, 94, 96, 98, 99, 2000, 2004. On dirait un film d'horreur. Hein, c'est 2004-2007. En fait, au jour d'aujourd'hui, cette mineuse est absolument de partout. Et par exemple, là, ici, en Finlande, pourquoi ces deux petites taches? Ce sont des ports de ferry. Et en fait, le champignon a pris le ferry, ici en Pologne, a traversé la Baltique, puis a débarqué. Ça, c'est un grand classique. En général, les foyers d'infection, c'est toujours les ports ou les aéroports. C'est donc la chenille est encore plus petite que l'adulte. Maximum, elle fait 5 mm, donc on la remarque à peu près pas, sauf si vous êtes entomo. Et ça fait ce genre de petites choses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur des marronniers en ville. Et ça, c'est un feuillage en plein été. Le feuillage n'est pas mort, mais dans chaque feuille, il y a des chenilles qui se sont développées à l'intérieur de la feuille. Pour grignoter la feuille, bien sûr, la feuille est morte. Alors, ce n'est pas très, très gênant parce que ça ne tue pas le marronnier. Ça fait simplement qu'il perd ses feuilles au mois d'août, ce qui peut paraître un peu surprenant. Et la seule chose à faire, parce qu'aucun moyen chimique ne sera efficace, c'est de détruire les feuilles en hiver, parce que les chrysalides, les insectes, passent l'hiver dans ces feuilles-là. Donc il ne faut pas laisser des feuilles au pied des arbres. Sauf qu'on pourrait dire, pas grave la mineuse. La mineuse, c'est juste un effet visuel, ça ne tue pas les marronniers. Sauf qu'il y a une autre maladie qui est apparue à peu près en même temps, ça j'adore, mais pas dans le même port, elle est arrivée aux Pays-Bas, qui est une bactérie qui, elle, tue les marronniers. Et en fait, vous avez deux vagues successives, celle que je vous ai montrée, de cet insecte, qui a priori affaiblit les arbres sans les tuer, et puis la bactérie qui, elle, détruit les arbres. Ces histoires, on va les retrouver partout, tout le temps, constamment, c'est une répétition. Quand on fait l'inventaire, vraiment, ça va devenir désespéré. L'orme, c'est un très très bel arbre. qui était le premier ou deuxième feuillu en Europe. On avait bien cet arbre, on le plantait. Par exemple, les Néerlandais l'ont beaucoup planté aux Pays-Bas parce que c'est un arbre qui résiste bien au vent et qui résiste bien aux terres salées. Pour les Pays-Bas, vous imaginez, c'est pas mal. Ils en ont planté des millions. Sauf que, en 1918, à Verdun, ça, j'adore ça, c'est des choses qui s'inventent dans une histoire, c'est incroyable. À Verdun, vous imaginez, en 18. Pourquoi ? Enfin, on imagine bien, c'est des marchandises qui sont arrivées, donc ces zoos, et il y avait du bois. Sur ce bois, il y avait un champignon encore, qui a été responsable de la graphiose de l'or. Puis, on a repéré ce champignon un peu partout. Belgique, Pays-Bas, c'est pas loin de du nord de la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie, puis les États-Unis. Alors ça, c'est très drôle, les États-Unis. C'est arrivé en 1930, soit quand même 12 ans après la première arrivée. Les forestiers américains savaient très bien qu'en Europe, il y avait un champignon qui est en train de tuer tous les ormes. Donc ils savaient ça. Et bien on a continué à faire du commerce de bois d'orme entre l'Europe et les États-Unis. Et on sait comment c'est arrivé, dans quel port, parce qu'après on a suivi le trajet de ce bois d'orme, en fait, qu'on a réparti en des points de vente, et à chaque fois, ça fait un déclenchement de cette épidémie, et on n'a pas transporté simplement qu'un champignon, responsable de la graphiose, on a transporté aussi l'insecte capable de véhiculer le champignon. On a fait coup double. Alors qu'encore une fois, en 1930, il y a un important service forestier aux États-Unis. Ils sont très sensibles aux maladies et ils connaissent très bien la graphiose. Et on n'a fait absolument rien du tout. Mais ça, c'est une constante. Ben, on sait, on ne fait pas. Dans les années 60, ça se calme un peu. On se dit, super. Les Néerlandais, toujours, comme ils aiment toujours l'orme, ont fait des ormes entre guillemets résistants à ce champignon, et ils ont replanté des millions d'arbres pour remplacer ceux qui étaient morts juste avant. Manque de bol, il y a une deuxième épidémie, beaucoup plus radicale que la première, et tous les arbres plantés pour résister à ce premier champignon ne résistent pas au second, qui est sans doute un mutant ou un hybride du premier champignon. Et cette fois, en fait, il arrive des États-Unis. Première fois, on l'a envoyé aux États-Unis, mais là, on a rapporté des États-Unis. Et ces deux épidémies touchant les ormes ont tué dans la première fois, juste aux États-Unis, entre 50 et 100 millions d'arbres. Juste au Royaume-Uni, 30 millions durant la seconde épidémie. Et au total, on estime qu'il y a quelques milliards d'ormes qui sont morts durant cette épidémie. Je vous cite cet exemple parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de maladie, on parle toujours soit de maladie humaine, soit éventuellement de maladie d'animaux, mais pas de maladie de plantes. Or, les maladies de plantes sont soumises aux mêmes aléas historiques et à la même intervention de l'homme que les maladies d'animaux. Alors, je saute ça aussi, je surveille un petit peu l'heure. Je vais vous parler rapidement du platane, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, ce qui est arrivé aux ormes est en train d'arriver, est arrivé historiquement, ou va arriver, parce que de toute façon, ça ne va pas s'arrêter, sur à peu près toutes les espèces. Actuellement, vous avez une maladie qui est en train de traverser l'Europe, enfin c'est fait, elle a traversé l'Europe, qui est apparue en Pologne, dans le nord de la Pologne, qui touche les frênes. Le frêne est un arbre banal qu'on voit dans tous les paysages. C'est le deuxième feuillu ou premier feuillu le plus banal. Il est en train de disparaître. L'orme, on arrive à en faire pousser. Ils sont chétifs, ils ne vivent pas très longtemps, mais on arrive à les faire pousser. Cette maladie qui touche les frênes touche même les petits plantules. Vous avez une petite plante qui a un an, deux ans, pouf, cette maladie va tuer les frênes. C'est un impact économique absolument considérable. Et qu'est-ce qu'on fait contre ? En fait, absolument rien du tout. Donc le platane, vous connaissez le platane, c'est un arbre quand même culturellement lié énormément au Midi de la France. Le splendide canal du Midi, c'est 42 000 platanes, enfin, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez connu, ce canal du Midi, comme ça.
Ils l'ont arraché, là, ils ont occupé, je crois.
Est-ce que vous avez connu le canal du Midi avant ? Non, bah, trop tard. C'est trop tard. Parce que une nouvelle maladie, le chancre coloré du platane, est apparu. 45, arrivé en Italie, avec des marchandises venant des États-Unis. Et en fait, ça tue le platane, 90% des platanes. Et ça, c'est le canal du Midi. C'est pas le canal du Midi en hiver. Regardez la végétation derrière. C'est en plein été. Ça, c'est des platanes qui sont morts.
Ceux qu'ils ont tirés.
Pardon ?
Ceux qu'ils ont retirés.
Ceux qu'ils ont retirés. Alors, comment cette maladie est véhiculée ? Il y a plein de façons, notamment par les bateaux. Parce que les bateaux, les écorces des platanes débouchent un peu dans le canal. Donc, il y a un bateau qui affleure une première racine, se contamine et va contaminer un autre arbre. Il y a les instruments utilisés par les gens qui taillent les arbres. Il faudrait désinfecter après chaque arbre. Là aussi, c'est un changement de civilisation. C'est exactement comme une seringue, en fait. On ne va pas utiliser un même instrument d'une personne à une autre pour éviter de transmettre des maladies. Mais il faudrait faire pareil pour les arbres. Et là, il y a un travail d'éducation considérable à faire. Donc, ça, c'est le platane. On voit. Et donc, pour revoir cette image-là, il ne faut pas se leurrer. Ça, sauf les personnes peut-être les plus jeunes dans la salle, on ne le verra jamais. Parce qu'il faut quoi ? Il faut 40 ans pour avoir un ombrage pareil, même si on rencontrait ces arbres. On ne le verra pas. Je vous dis, mes conférences sont extrêmement pessimistes. Alors, je vous saute Paris, mais parce que Paris, c'est intéressant. 40% des arbres plantés à Paris même, 183 000 arbres, quand même, sont des platanes. Le chancre va arriver à Paris. Donc, il faudra remplacer 40% des arbres. Imaginez le coût que ça représente.
Versailles.
Oui, Versailles notamment, mais les grands boulevards parisiens. Alors, ce que je vous disais, c'est ça. C'est ça qui, moi, m'interroge le plus en tant qu'historienne. C'est-à-dire que c'est la courbe des champignons pathogènes introduits en Europe. C'est une courbe exponentielle. Alors, on peut dire que c'est le commerce. Mais quand même. Le phylloxéra, vous savez, cette grande crise, un insecte apporté d'Amérique qui a tué quasiment toutes les vignes, 90% des vignes européennes. On arrive à faire du vin aujourd'hui parce qu'on a eu énormément de bol en pouvant faire des croisements, en fait, des greffes sur des pieds de vigne américains. Mais par exemple, dans la graphiosola, on ne peut pas avoir cette solution. C'est vraiment dans le cas de la vigne et du phylloxéra, c'était. Et ça, c'est arrivé. Fin des années 1890. Là, on met en place les premières mesures de règlement sanitaire. Et ça n'a changé strictement rien. C'est-à-dire, crise après crise, graphiosolum après d'autres crises, on continue d'introduire des espèces par négligence, essentiellement, par bêtise, par inculture. Alors, bien sûr, parler de biodiversité et de santé, forcément, on parle de pesticides. Pourquoi forcément on parle de pesticides ? Parce qu'à l'origine, on utilise des pesticides à cause de la biodiversité. Quand on cultive un champ, qu'il y a des insectes qui arrivent, ces insectes qui mangent le champ sont de la biodiversité. Quand vous avez des mauvaises herbes qui empêchent une culture, ces mauvaises herbes sont aussi de la biodiversité. Donc on a développé les pesticides pour lutter contre la biodiversité. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est la biodiversité qui a permis de comprendre réellement le danger des pesticides. Alors, je vais vous passer très rapidement ça. C'est simplement une petite rappel chronologique des usages des pesticides. Pesticides chimiques, c'est extrêmement vieux. On a commencé vraiment à s'en servir, vraiment dans un sens important en quantité, au 18e, avec de l'arsenic. Il faut savoir que l'arsenic, c'est la molécule vedette du 19e siècle. On va en mettre de partout. On va mettre par exemple de l'arsenic dans les bonbons pour enfants parce que ça donne une jolie couleur verte. À la base, ça permet de faire des colorants. Les feux d'artifice qui connaissent une vogue, ça on s'en souvient pas, mais une vogue incroyable au 19e, sont chargés d'arsenic. Donc on fait brûler un petit feu comme ça d'artifice, ça relâche une quantité astronomique d'arsenic. La tapisserie était chargée d'arsenic. En fait, on trouve des taux d'arsenic tellement forts dans l'environnement immédiat, à cause des vêtements, à cause de la tapisserie, comme je vous disais, à cause d'autres choses, qu'on connaît des cas d'empoisonnement à cause de l'arsenic au 19e siècle, sans qu'il y ait d'empoisonneuse derrière. C'est juste un empoisonnement. Et le premier cas de résistance à l'arsenic date de 1897. 14, première guerre mondiale. Il y a un blocus commercial, l'Amérique qui utilise énormément de produits chimiques destinés à l'agriculture, c'est le pays qui invente vraiment les pesticides, les États-Unis. Ils ne peuvent plus acheter leurs produits chimiques parce que le blocus, en fait la matière première venait d'Allemagne, c'est là où il y avait les industries chimiques, et eux ils se contentaient de transformer. Et les États-Unis développent à une vitesse incroyable, c'est une histoire industrielle absolument remarquable, une industrie chimique propre, et en 18 elle est parfaitement opérationnelle, remplace complètement les importations allemandes, sauf que 18 la guerre s'arrête. C'est-à-dire les produits chimiques qu'ils fabriquaient pour faire des bombes notamment incendiaires, faire des gaz de combat, ben, ça ne sert plus à rien. Et là, ils ont l'idée de convertir cette fabrication de produits chimiques en produits insecticides. Le DDT, molécule fameuse et géniale, est découverte en 1939 et va être commercialisée en 1945. Et en 1954, cette industrie chimique qui est née quand même 40 ans plus tôt, va être la première industrie devant toutes les autres industries. L'industrie chimique va dominer le paysage industriel américain. Vous connaissez le faucon pèlerin, je ne vais pas vous en parler plus longtemps, c'est un oiseau qui a une répartition ici dans les zones foncées, à peu près partout sur Terre, en dehors des zones, en dehors de certaines zones. On observe dans les années 50 un effondrement de la reproduction des faucons pèlerins. C'est-à-dire on trouve des nids, mais les nids sont abandonnés. Au mieux, on trouve des coquilles cassées. Et cette observation, on la voit de partout. Quand je dis de partout, on la voit strictement de partout. Je sais, c'est illisible, mais ça permet simplement de repérer cette observation d'échec de la reproduction se voit absolument de partout. Et bien sûr, alors on a l'idée, comme il y a des coquilles vides, de prendre ces coquilles cassées et de mesurer l'épaisseur de la coquille. Et on se rend compte, parce qu'on a des collections d'œufs depuis le 18e, que la coquille s'est amincie au fil du temps, ce qui provoque en fait l'échec de la reproduction. Soit parce que l'œuf casse, soit parce que les échanges d'oxygène notamment se font mal avec l'extérieur ou se font trop, et donc l'embryon meurt. Et on a une relation extrêmement forte entre la finesse des coquilles et plus la coquille est épaisse en bas, plus la reproduction est bonne, et plus la coquille devient fine, plus la reproduction est mauvaise, au point où dans certains lieux elle disparaît complètement, il n'y a plus de faucons pèlerins. Et ce qu'on voit pour les faucons pèlerins, on voit aussi pour d'autres oiseaux qui ont tous la même caractéristique, c'est des prédateurs ou des piscivores, c'est-à-dire des animaux situés en bout de chaîne. On a la même chose avec des pélicans. On a des zones où il y avait des pélicans, subitement on n'en voit plus. On fait une enquête un peu compliquée, on comprend que c'est effectivement ces nouveaux pesticides utilisés en 1945. Par exemple au Canada, on a des zones où on n'a plus de faucons pèlerins, la reproduction ne se fait plus, et à partir d'un moment elle se fait encore, parce que c'est des zones qui ne sont pas traitées au DDT. Qui donne une idée en fait de la cause. Et la plus belle démonstration du lien qu'il y a entre ces pesticides et la reproduction des oiseaux est donnée une fois qu'on interdit ces pesticides. Je vous montre l'exemple avec un autre rapace, l'épervier, au Royaume-Uni. Vous voyez que la reproduction de l'épervier au Royaume-Uni, jusque dans les années 70, n'est pas très très bonne. Et puis à partir de là, ah oui, à partir de là, ça grimpe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est simplement, on a interdit un pesticide qui s'appelle le diendrine. Et là, on voit bien, ça a été la meilleure démonstration faite par la biodiversité du danger du pesticide. En sachant qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à relier les pesticides de façon sûre et convaincante, encore une fois, au cancer. On connaît 2-3 exemples de maladies professionnelles, le lindane, par exemple, le chlordécone en Martinique, lié à des maladies professionnelles, sinon c'est très très difficile à démontrer. Alors, la conclusion pour l'avenir. La faune et la flore, comme je vous disais, ça, elle ne va pas bien du tout. Moi j'aime bien donner un petit exemple. Quand vous étiez beaucoup plus jeune, vous vous souvenez de ces jours d'été où il fallait arrêter la voiture parce que le pare-brise était maculé d'insectes. On ne voyait plus, il fallait descendre, nettoyer le pare-brise parce qu'on ne voyait plus à travers. Aujourd'hui, vous ne le voyez plus? Enfin, très très faiblement. Ou alors vous êtes dans un coin privilégié, mais les insectes, ils sont... Et tous les entomologistes que je connais, qui sont un peu vieux, me dit ça. Quand j'étais jeune, il suffisait que je fasse ça, pouf, je trouvais 50 exemplaires de tel insecte. Maintenant, il faut que je regarde 10 arbres différents pour en trouver un. Il y a un effondrement de toute l'entomophobie. Ça va extrêmement mal. Et l'une des causes, comme je vous ai dit avec la salamandre, mais c'est pas que la salamandre, c'est les maladies transportées par l'être humain d'un coin à un autre, et c'est en fait l'être humain qui va être ce vecteur de l'introduction sans cesse de ces maladies dans le monde naturel, et qui va avoir aussi un poids sur la faune et la flore. C'est pas la seule cause, mais c'est l'une des causes. L'espèce humaine est concernée, c'est-à-dire on sert. Il y a deux exemples. Il y a un exemple, c'est la maladie de Lyme. Vous en avez entendu parler. C'est maintenant, on comprend le mécanisme. C'est qu'il y a eu, en fait, l'effondrement des populations de renards ont conduit à l'augmentation des populations de rongeurs. C'est logique. Moins de renards, plus de rongeurs. Plus de rongeurs, ça veut dire plus de tiques. Plus de tiques, plus de transmission à l'homme. Et en fait, aujourd'hui, on a une démonstration, en fait, extrêmement fine de cette relation entre cet appauvrissement de la biodiversité, moins de renards, augmentation du nombre de rongeurs, augmentation de tiques, augmentation du cas de maladie de Lyme. Donc l'être humain a tout intérêt à avoir une biodiversité en bonne santé pour sa propre santé. Les inégalités jouent un rôle considérable dans les dérèglements du monde. Vous imaginez bien qu'on ne va pas faire demain des règlements pour sauver les salamandres si on est incapable dans le même temps de régir une société égalitaire. Vous comprenez bien que l'inégalité est un dysfonctionnement social. Si la société dysfonctionne en produisant des inégalités, elle ne va pas soudain à être super attentive à la biodiversité. Les deux sont liés. On ne pourra pas avoir une société attentive à la biodiversité si elle n'est pas attentive à la réduction réelle des inégalités. Il faut savoir que 70 pays dans le monde connaissent un accroissement des inégalités. C'est le cas de la France ou de l'Allemagne. Et puis, il y a le dérèglement climatique qui va être un élément absolument majeur de tous les problèmes nouveaux qui vont apparaître demain. Donc, on n'en est pas encore sorti. Je vous remercie. Des boîtes de tranquillisants à la sécurité de personne.